Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Cube Radio. Il connaît tous les dessous de la politique.
Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
Antoine Robitaille.
Là-haut sur la colline.
Là-haut sur la colline. Cube Radio.
Bon mercredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, réplique aux attaques des libéraux Barrette et Déragie qui lui reprochent de ne pas divulguer une liste de 10 entreprises qui ont reçu des prêts grâce à son pouvoir discrétionnaire durant la première vague de la COVID. Leurs attaques sont grossières et de mauvaise foi, peste-t-il. On en profite pour aborder avec lui le dossier de l'hydrogène vert, nouvelle passion du Parti libéral du Québec qui veut tout nationaliser en ces matières. Mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau.
Cube Radio. Les rencontres de l'heure.
Rémi Nadeau et Antoine Robitaille.
La rencontre Nadeau-Robitaille.
Et bonjour Rémi Nadeau.
Salut Antoine.
Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Ben on va tout de suite à l'analyse sportive de la période de questions.
Allons-y.
Il y a eu un bon bras de fer aujourd'hui et quel est-il?
C'est concernant les éducatrices en garderie.
Oui.
Alors, les partis d'opposition, à l'unisson, ont dit qu'il faut que le gouvernement Legault nous assure qu'il n'y aura pas de loi spéciale. Et les partis sont tombés sur le gouvernement en lui reprochant de ne pas donner des augmentations suffisantes à l'ensemble des employés dans les services de garde. Parce que, on va le rappeler rapidement, là, le gouvernement a donné des augmentations. Ah, ben, pas donné, mais oui, a accordé déjà des augmentations.
Avant même la fin de la négo.
Oui, c'est ça, d'habitude, c'est quand c'est terminé, mais là, il l'a déjà. Il a déjà accordé des augmentations de 20 % pour les éducatrices. Et là, le litige est du côté des autres employés, donc par exemple les gens au service de l'entretien, des cuisines, parce qu'ils veulent une augmentation plus importante que ce que le gouvernement a mis sur la table. Là, il y a un litige à savoir, bon, est-ce qu'ils ont vraiment demandé le même pourcentage d'augmentation? Les syndicats disent non, le gouvernement dit que oui, au début, c'est ça qu'ils demandaient. Ils demandaient les mêmes hausses, là, autant pour les éducatrices que pour les autres corps de métier. Alors, les partis d'opposition sont rentrés...
Oui, puis comme quand il y a de la négo, on ne sait jamais trop ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui...
Oui.
Bon. Il y a des stratégies là, des deux côtés. Donc, exact. C'est difficile de savoir exactement.
Alors, c'est sûr que là, le gouvernement, François Legault en tête, mais Sonia Lebel aussi, ils ont vraiment réaffirmé leur intention de ne pas bouger pour les, par exemple, les cuisiniers, cuisinières ou concierges, etc. Parce qu'ils disent, il y a déjà une augmentation qui est plus, là, si je me rappelle bien, c'est 9 %, là, c'est plus que le 6 % qui est accordé dans la fonction publique.
Oui.
Mais les partis d'opposition ont vraiment essayé, par exemple, Gabriel Nadeau-Dubois, de mettre en opposition le fait que le gouvernement laisse des femmes en plan, parce que ce sont surtout des employées là, féminines.
Ah, puis François Legault avait une réponse toute prête là-dessus. Hein?
Oui, alors parce qu'il dit, écoutez, nous, on a accordé des hausses de 20 % à la fois aux préposés aux bénéficiaires, où c'est surtout des femmes, aux enseignantes, où c'est surtout des femmes, et aux éducatrices en garderie. Alors, c'est sûr qu'effectivement, il y avait une bonne réplique, M. Legault, parce que c'est vrai, ce sont des hausses spectaculaires.
Mais il n'a jamais répondu sur la question clé de Gabriel Nadeau-Dubois, qui était la fameuse loi spéciale, parce qu'il y a une menace de loi spéciale.
Exact. Alors là, bon, là-dessus, on tergiverse un peu avec les mots. Là, on n'envisage pas une loi, mais ça, c'est toujours un peu... c'est passe-partout. Là. Tu peux pas envisager, mais à un moment donné, te mettre à envisager puis adopter une loi spéciale.
Ah oui, ça, c'est ce qu'il y a d'insupportable à couvrir des négociations dans le secteur public.
C'est ça. Mais, tu sais, je reviens au fait aussi que je prends, par exemple, Marc Tanguay, qui, dans ses attaques virulentes du Parti libéral... reprochait à Sonia Lebel d'avoir rien fait pendant des mois, d'avoir été comme la cigale qui chante puis là, qui attend la dernière minute.
Mais ben oui,
d'avoir...
c'est le fun, c'est le député de La Fontaine qui cite la fable de La Fontaine.
C'est donc bien bon.
Que c'est pas le même La Fontaine, remarque. Ouais. Alors... Louis-Hippolyte La Fontaine, c'est un personnage célèbre politique du 19e siècle, alors que la fable de La Fontaine, c'est bien avant ça, comprends-tu? Mais on a justement Sonia Lebel qui répond à cette attaque là que Marc Tanguay disait. Elle m'a fait penser à la cigale dans la fable de la cigale et la fourmi, Monsieur le Président. Qu'a-t-elle fait pendant 1 an et 8 mois? Oui, oui, oui. Et Sonia Lebel a eu toute une réplique.
Donc, contrairement à la cigale, j'ai pas chanté tout l'été. J'étais seule au table de négociation, je le rappellerai.
Et honnêtement, Antoine, moi, je me rappelle très bien, quand je suis revenu de vacances à la mi-août, j'ai tout de suite demandé à la partie gouvernementale, puis qu'est-ce qui se passe? On va se préparer un bras de fer avec les éducatrices en garderie. Et il m'avait dit à ce moment-là, il ne s'est pas passé grand-chose parce qu'on leur a demandé et nous ont dit, on se voit à l'automne. Alors, ça correspond à ce qu'on m'avait dit, en tout cas, à ce moment-là. Que la partie syndicale ne voulait pas négocier durant
l'année. Mme Lebel, cet été, elle n'arrêtait pas de répéter qu'elle était prête à négocier.
Oui. Alors voilà, je
donc
pense que
c'était plus une fourmi qu'une cigale.
Alors honnêtement, là-dessus, difficile de ne pas donner raison au gouvernement.
La contre-attaque du jour, maintenant.
Excellente contre-attaque, c'est comme en boxe. Hein. Des fois, on reçoit un coup, mais pendant ce temps-là, l'adversaire a ouvert sa défensive et on peut placer.
Ben oui, t'es un amateur de boxe, toi, c'est
ouais,
vrai.
Ben je l'étais, je le suis moins, là.
Ouais, c'est fini la boxe.
Ouais, ben,
c'est ça que tu me disais récemment.
Depuis les belles années de Lucien Bouté, puis de...
Ah oui.
Ouais, ça a perdu un peu de son lustre.
Mais donc. M. Fitzgibbon est tout un boxeur en chambre.
Voilà, alors on disait...
Il est à l'émission, hein? Il est à mon émission, il est
oui.
En deuxième partie.
Oui. On disait hier qu'il ne bronchait pas, qu'il n'avait pas l'intention de divulguer le nom des entreprises qui ont reçu de l'aide financière du programme d'aide de relance le post-pandémie, même si elles ne respectaient pas les critères des programmes. Et là, alors que Moncef Déragi continuait de l'asticoter là-dessus, M. Fitzgibbon a sorti une citation... de Dominique Anglade.
Oui.
Alors, on va écouter ce que ça a donné.
Je vais déposer ici en la Chambre un document, un article de journal du 1er août 2018 que je vais lire. Deux paragraphes. Au cours des 5 dernières années, le gouvernement du Québec a perdu pas moins de 450 millions dans des prêts faits à des entreprises qui ont connu des difficultés financières et qui ont carrément fait faillite. Le punch n'est pas là. Québec, 1er août 2018, Québec refuse de divulguer le nom des entreprises qui ont cessé de rembourser leurs prêts afin de ne pas causer de préjudice et de respecter la confidentialité des documents. Qui était la ministre de l'Économie? La chef du
deuxième Parti complémentaire, s'il vous plaît.
Alors, on l'a pas entendu au complet à cause que le micro a été fermé. Son temps de parole était terminé, mais c'est bel et bien. Donc, qui était la ministre de l'Économie? La chef du Parti libéral du Québec actuel, Dominique Anglade, qui était ministre de l'Économie à ce moment-là. Donc,
puis en entrevue à l'émission plus tard, il dit c'est encore pire pour elle, là, parce qu'elle, c'était des pertes.
Oui, exact. Alors, M. Fitzgibbon a dit, même dans une réponse subséquente, parce que Moncef Déragi est revenu à la charge malgré tout, il a dit « Moi, je trouve que Mme Anglade avait raison à ce moment-là et elle devrait aujourd'hui convaincre son porte-parole de l'économie de cet état de fait, là, qu'on ne doit pas divulguer le nom des entreprises qui reçoivent ces montants en aide. »
Et il y a Gaétan Barrette qui a posé des questions encore?
Oui.
Ben oui. Lui qui n'est pas responsable d'aucun dossier.
Non,
pourtant.
Mais là, visiblement, on dirait que la responsabilité éthique est partagée.
Lui est revenu.
Maintenant,
ouais. Mais oui. Troisième sujet, le manque d'écoute du jour. Oui, c'est vrai. Est-ce que ce serait un prix Luzerne si on était le vendredi?
Si on était le vendredi, oui, je pense que oui. Remarque que ça arrive. Ça arrive quand même, je dirais, assez fréquemment. Les gens dans l'opposition ont des questions préparées à l'avance. Et des fois, la réponse qui est fournie par le ministre lors de la première réponse vient contrecarrer un peu le...
Je dirais même déculotter.
Oui, la suite des choses.
Puis
bon, mais des fois, la personne continue quand même avec sa question. Alors, c'est arrivé, je trouve, à Joël Arsenault du Parti québécois aujourd'hui parce qu'il demandait au gouvernement, est-ce que vous avez été consulté par le fédéral avant qu'il prenne la décision de rouvrir le chemin Roxham par lequel est arrivé là, trop... Ben, j'allais dire trop... de façon trop importante, là, un flux de réfugiés, puis là, ça avait créé des problèmes. Alors, Jean Boulay se lève et il lui dit qu'il y a eu des...
Ministre
rencontres.
De l'Immigration, maintenant. Hein?
Ministre de l'Immigration, maintenant, en effet. Et donc, il dit avec la date, il dit le 21 novembre dernier, il y a eu des discussions, il parle des ministres Fraser, Duclos, Qualtrough, avec lui et Christian Dubé. Et il prend la peine de spécifier, donc, qu'il voulait que le Québec demandait, en fait, qu'il y ait une limite de 60 personnes par jour qui soient reçues. Puis là, il semblait dire, bon, comme ça, on est capable de les accueillir là, dans le respect, dignité, etc. Alors, donc, il signale qu'il y a eu ces discussions-là avec le fédéral. Et là, par la suite, M. Arsenault se relève et, bon, d'abord, il reproche à François Legault de ne pas avoir répondu lui-même à sa question parce qu'il est chef parlementaire. Mais après ça, il dit « On voit que le fédéral prend des décisions et que le gouvernement du Québec n'est pas consulté.
Eh? » Il n'avait vraiment pas écouté la réponse. Ou il était mal pris. Moi, je trouve qu'il avait l'air mal pris, tu sais. Il y a une complémentaire, puis oups, le ministre a trop répondu frontalement, puis ouais. Déculotté.
Oui, c'est ça. Je pense qu'il s'attendait peut-être à une réponse beaucoup plus évasive ou je ne sais trop. Alors, c'est lui qui a été mal pris pour la suite de ces questions.
Ben, merci beaucoup, Rémi. On se reparle demain.
À demain!
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
Vous écoutez Antoine Robitaille. Là-haut sur la colline.
La vérificatrice générale du Québec, Guylaine Leclerc, nous révélait la semaine passée que le ministre Pierre Fitzgibbon a permis l'octroi de prêts de totalisant 68 millions à 10 entreprises qui ne répondaient pas aux critères d'admissibilité des prêts accordés à Investissement Québec. Il est au bout du fil, M. Fitzgibbon. Bonjour.
Bonjour, M. Robitaille.
Alors là, vous êtes attaqué de toutes parts, M. Barrette, M. Déragi, même Michel Girard dans notre journal disent que ça manque de transparence, tout ça. Vous devriez dévoiler la liste des 10 entreprises. Vous devriez aussi cette clause là, qui semble être secrète aussi. Pourquoi tout ça doit rester confidentiel, selon vous?
Ben, si on parle de la liste des entreprises, je pense qu'il faut comprendre que le mécanisme Investissement Québec reçoit plusieurs demandes constamment. Et s'il fallait divulguer publiquement le nom des entreprises avec leur situation, c'est un enjeu de confidentialité pour la concurrence. Et c'est un enjeu aussi, les banques ne divulguent pas publiquement à leurs actionnaires qu'est-ce qui se passe avec les clients. Alors, je pense que c'est de manquer de rigueur que de divulguer les noms. D'ailleurs, ce matin, je faisais état que Mme Anglade, quand elle avait mon poste en 2018, elle avait la même position. Et je partage la décision de Mme Anglade. On ne peut pas divulguer comme ça.
Vous êtes d'accord avec elle là-dessus?
Parce que, absolument. C'est absolument. Ça?
Elle-même, donc, à l'époque, c'était quoi? C'est des prêts de quelques 400 millions là, dont on parlait. Et elle avait dit la même chose, il ne faut pas dévoiler le nom des entreprises.
Exact. Alors, moi, je pense que dans le cas de Mme Anglade à l'époque, c'était même pire parce que le journaliste faisait référence à des pertes qu'il y avait eues. Alors, ici, on ne parle pas de pertes, on parle de prêts. Mais peu importe. Je pense que Mme Anglade avait raison. Je lui donne raison. Et moi, je lui dis ce matin, finalement, elle devrait convaincre son chef de l'économique, ses chefs économiques. Maintenant, Monsieur Déragi, je pense qu'il devrait peut-être écouter Mme Anglade. Mais si on vient au point de départ, je pense que ce serait manquer de rigueur qu'on divulgue les noms. Maintenant, je pense que la vraie question, c'est le processus qui a amené à cette dérogation-là. Alors, si vous permettez, je pense que c'est important qu'on mette les pendules à l'heure. Parce que
pour les 10 entreprises, là.
En fait, il y a eu plus que ça. Il y a probablement une vingtaine qui a eu. Bon, la vérité générale a parlé de 10, mais il y a probablement 20. Parce qu'en fait, ce qui se produit, c'est que le mécanisme d'approbation des prêts était le suivant. Quand les prêts PACTE, PACTE, étaient en excédent d'un seuil de 5 millions, ils passaient par le bureau du ministre. Donc, c'était dans la réglementation. Et parallèlement à ça, Investissement Québec, qui a géré tous les prêts, a décidé que pour une vingtaine de prêts qui étaient identifiés comme étant hors normes dans le contexte du canevas qui avait été fait en 3-4 jours après le début de la pandémie, ils voulaient avoir l'approbation du ministre pour supporter leur décision. Ça, c'est important. Donc, tous ces prêts-là, les 10 qui ont été rapportés par la VG et les 10 autres, 10-12 autres qu'il y a eu aussi, ce sont des situations où Investissement Québec, de son propre chef, a considéré qu'il fallait un peu déroger des normes parce que l'intention du pacte était d'aider les entreprises. Alors, dans ces cas-là, ils ont décidé de venir voir le ministre pour s'assurer qu'il y avait un confort. Dans tous les cas, j'ai endossé leur...
Il y avait un confort, vous voulez dire que vous étiez d'accord avec ce qu'Investissement Québec avait choisi, c'est ça?
Exact. L'Investissement okay. Québec a décidé de rapporter ces dossiers-là parce qu'en fait, il aurait pu probablement le faire sans nous en parler, mais on a décidé de le faire. Et là, eux recommandaient de faire le prêt, mais ils voulaient s'assurer que le ministre était confortable avec leur décision. Et dans les cas des 10 en question, la réponse a été oui. Alors, c'est important de noter ça. C'est pas une décision, c'est pas le ministre qui a décidé que la compagnie A devait avoir un prêt, qu'il n'y a pas d'investissement à Québec, je veux ce prêt-là. Parce que quand on écoute M. Monsef d'Élagie et M. Barrette, on a l'impression qu'il pense que c'est un surpouvoir du ministre qui a favorisé des compagnies qui n'auraient pas eu de prêt, alors que c'est complètement l'inverse.
Mm-hmm. Là, l'opposition se demandait, que c'est parce que hier, vous avez dit la commissaire au lobbying, la commissaire à l'éthique, la vérificatrice générale ont eu accès aux renseignements. Or, la vérificatrice générale, c'est pas ce qu'elle dit dans son rapport, d'après ce que j'ai compris. Elle dit qu'elle n'a pas eu accès. Qui croire?
Écoutez, je pense que M. Barrette et M. Déragie commentent que la VG n'a pas eu toute l'information.
Oui.
Je vais aller jusqu'à dire publiquement, c'est la mauvaise foi. Jamais, dans ma tête, jamais Investissement Québec aurait omis de donner l'information. Et si c'est le cas, on parlera des mesures, mais je pense que le député, les deux députés du Parti libéral insinuent que la VG n'a pas eu l'information. Encore une fois, c'est de mauvaise foi. Je ne peux pas concevoir que c'est le cas. La VG a eu accès à toute l'information qui est disponible.
Parce que vous, dans le passé, dans vos rapports avec la commissaire à l'éthique, vous sembliez être un peu cowboy, c'est comme ça qu'on a décrit. Et là, on se demande, est-ce qu'il est encore cowboy avec la VG?
Ben écoutez, je comprends la question et c'est un compliment que vous me faites en passant, mais écoutez, je pense que, honnêtement, que le ministre est caché des choses de la VG, c'est grossier et c'est de mauvaise foi. Alors, la réponse, c'est non. Et c'est ce que j'ai dit hier en chambre et aujourd'hui, que les députés du Parti libéral fassent leur devoir, demandent à la VG ou demandent à la commissaire éthique d'investiguer si le ministre a caché l'information. Je trouve ça tellement grossier et de mauvaise foi que je veux défendre mon intégrité.
Ouais.
On peut questionner mon jugement. Ça, j'ai pas de problème. Beaucoup de monde le font, d'ailleurs. Mais mon intégrité, je n'ai zéro tolérance pour ça, autant pour les journalistes que pour l'opposition. Alors moi, je suis très ouvert qu'ils fassent des représentations aux commissaires, peu importe lesquelles, pour investiguer, pour creuser, pour voir si effectivement il y a eu des informations qui ont été cachées. Puis si oui, ben j'aurai à vivre avec les conséquences. Mais moi, je suis très à l'aise de vous dire que ce n'est pas le cas.
Mais si la vérificatrice générale du Québec s'arrête à ce cas-là de ces entreprises, c'est pour dénoncer une situation ou pour dire que ça devrait être mieux géré?
Ben écoutez, mieux géré, je suis pas sûr, mais je pense que j'ai lu le rapport très rapidement, je dois avouer, mais je serais très surpris que la VG ait mentionné qu'elle n'a pas eu l'information.
Mm-hmm.
Je serais excessivement surpris, je serais choqué, en fait. Alors, je pense que la VG, tout ce qu'elle a dit, je suis pas en désaccord avec elle, elle a dit sur les 10 dossiers qu'elle a choisis, il y a des dossiers qui ne respectaient pas à la lettre ce qui était écrit dans le décret qui était le programme PACT, le programme ESSAR. Puis moi, j'ai dit en chambre hier que c'est un commentaire, c'est un jugement que je porte, mais je vais le faire quand même. On a fermé les lumières du Québec le 13 mars 2020.
Oui.
Les lumières, puis l'économie, il y avait une anxiété, panique de tout le monde. Et
mais
en
oui.
6 jours, les fonctionnaires, avec évidemment le politique impliqué, ont développé un programme d'aide aux entreprises en 6 jours. Alors, sur 1460, je pense, interventions financières de Investissement Québec, qu'il y en a une vingtaine qui a été, entre guillemets, des exceptions, je trouve ça extraordinaire. Et d'autre part, j'ai aussi mentionné en chambre que sur les 1462, en fait, sur les 14 000, si j'inclus le PopMe, à ce jour, il y a un demi des 1% des entreprises qui ont fermé, donc une sur 200. Ça va changer parce que c'est sûr que le temps va passer. Certaines entreprises n'auront peut-être pas la capacité financière de repayer leurs prêts, donc ils vont avoir un taux de perte. Mais tous les CEO des banques canadiennes seraient certainement très, très heureux d'avoir une perte de paix de 0.5 de 1%. Alors, je pense que faut quand même regarder les résultats, faut regarder le contexte dans lequel le programme a été mis en place. Et honnêtement, et je ne prendrai pas le crédit pour moi-même, là, je vais le donner aux autres, parce que c'est pour moi qui ai pris les décisions.
Mm-hmm.
Je suis très fier des gens. Parce que le Québec a quand même le taux de fermeture d'entreprise le plus bas. On était à 30 % inférieur à ce qu'on était avant la pandémie. Alors, je pense qu'il faut voir les résultats au bout. Puis la vérité générale, pour conclure, là, ce qu'elle a fait état, c'est qu'il y a eu des cas qui étaient hors normes, qui avaient été statués, et elle a raison. Et je pense que moi, je suis content que les fonctionnaires aient été capables de les amener à mon attention.
OK. Là, Gaétan Barrette a dit une entreprise stratégique. Est-ce que ça veut dire stratégique dans l'intérêt du portefeuille des Québécois ou dans l'intérêt du portefeuille du ministre? Et, bon, il a été obligé de retirer sa phrase, mais la question est incisive, mais elle est bonne. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Parce que c'est ça qui est sous-jacent là, à cette affaire.
M. Barrette est une personne de mauvaise foi. Mm-hmm. Ce que je peux citer, c'est complètement de mauvaise foi. Je n'ai plus d'intérêt dans aucune société. Alors, d'insinuer ça, c'est grossier.
Oui, OK. Lumen Pulse, la question a été posée en chambre aussi. C'est une entreprise dans laquelle je pense que l'épouse d'un des membres du Conseil des ministres a des intérêts. Est-ce qu'elle est dans la liste, le groupe Lumen Pulse?
Lumen Pulse a été une entreprise qui est sur la liste des 1468, oui. L'épouse du ministre de quoi? L'épouse de quel ministre?
Dubé.
Ça n'a aucun rapport. Dubé n'a pas aucun rapport avec les décisions. Les décisions ont été prises par Investissement. En fait, c'est Investissement Québec, pas décision. Donc, okay. Ça n'a pas rapport.
Êtes-vous tanné de toutes ces questions-là? Ça
non,
vous poursuit?
Non, parce que comme je vous ai dit, moi qu'on questionne mon jugement, là, j'ai zéro problème parce que, écoutez, je n'ai pas la vérité sur tout. Mm-hmm. Quand M. Barrette et moi, M. Monsef insinuent que je cache des choses, ou insinuent que je me suis avantagé personnellement, c'est grossier, c'est de mauvaise foi, et je vais me défendre, je ne tolère pas ce genre de commentaires-là. Alors, je suis journaliste ou opposition, mais qu'on me dise que j'ai pris des mauvaises décisions, je peux vivre avec ça, parce que personne n'est parfait, moi inclus, mais je pense qu'il y a une ligne qu'on ne franchit pas, et M. Barrette, ce matin, a franchi une ligne que je trouve inacceptable.
Allez-vous vous défendre judiciairement, ou juridiquement, ou simplement politiquement?
Non, pas du tout. Moi, je ne suis pas un belligérant, je ne suis pas un guerrier. Là. Moi, je suis ici faire un travail. Hein. Moi, mon travail m'excite beaucoup là, intellectuellement. Je dois avouer que je suis plus heureux quand je suis à mon bureau à m'occuper des entreprises que de répondre à des questions qui n'ont aucun fondement. Mais ça étant dit, je me réjouis, je me satisfais du travail que je fais. Je pense que je suis privilégié de pouvoir occuper ce poste-là. Puis, écoutez, les choses comme les tapons parlés, ben, faut pas non plus en faire un plat. Là. Bon, j'ai répondu ce que j'avais à répondre. Là, c'est grossier, c'est de mauvaise foi. Ben, là, je pense à d'autres choses. Mais là, je vous parle de mon bureau. Puis je vais en voir rencontrer des gens. Là,
OK.
Ça me rend très heureux comme travail. Hey,
parlez-moi donc, en terminant, là, dernière question. L'hydrogène vert. Le Parti libéral est devenu hydrogéné en fin de semaine. Là. Il triple là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne idée? Est-ce qu'il y a moyen? Déjà, je sais que François Legault avait suggérer que ce serait une bonne affaire qu'on ait une espèce de société d'État de l'hydrogène. Qu'est-ce que vous en pensez?
Écoutez, l'hydrogène vert, il n'y a aucun doute. C'est une énergie renouvelable qui va nous permettre de réduire nos GES. Bon, maintenant, là, je pense qu'elle a un peu fait un peu de millage avec ça. Là. Je ne suis pas sûr qu'elle va toute la compréhension, pas la compréhension, la compréhension, c'est une personne intelligente. Je ne suis pas sûr qu'elle avait toutes les données pour faire ce qu'elle a avancé, 100 milliards, 25 ans, 50 ans, je ne sais pas ce qu'elle a dit. Là. Moi, ça fait 2 mois, 3 mois, je travaille avec Jonathan Julien, mon collègue de l'énergie, et Mme Brochu du Québec. On a des projets. J'ai annoncé, vous vous rappelez peut-être, il y a plus de 12 mois, le premier électrolyseur que nous allons faire à Varennes avec Enerkem, puis oui. Le partenaire avec qui j'ai travaillé, c'est avec Shell, Proman et Suncor. Je suis très fier de ce projet-là. C'est 77 mégawatts d'hydrogène. On est déjà là-dedans. Et je regarde maintenant avec tous les industriels, puis juste pour donner un peu l'ordre de grandeur, 44 % des GES viennent du transport, 18 % viennent des filières industrielles et 9 % viennent de l'agriculture. Alors, je peux vous dire tout de suite que dans le côté des transports, l'électrification ne peut pas réduire les 44 % Une okay. partie du transport, ça va se régler avec l'hydrogène. Par exemple, on pense au train, on pense aux camions lourds qui transportent des marchandises. Alors ça, c'est de l'hydrogène qui va régler ça. J'ai pas le pourcentage exact, mais je vais aventurer peut-être le tiers du 44 %
OK.
Filière industrielle, si on veut faire du fer vert, de l'aluminium vert et d'autres matériaux verts, ben l'hydrogène va devenir important par parce que l'électricité a la puissance de l'hydrogène. Donc, clairement, l'hydrogène fait partie de notre solution, notre coffre à outils. Et je dirais que l'avantage Québec dans le monde, c'est qu'avec l'hydroélectricité qui en fait produit l'hydrogène vert, parce que sinon l'hydrogène va être bleu ou gris, comme on voit en Europe ou en Alberta, nous avons un avantage comparatif.
Mais ça vaut-il la peine de nationaliser, comme Mme Anglade le dit?
Écoutez, nationaliser, ça veut tout dire, ça veut rien dire. J'ai pas vu vraiment de plan d'action dans son statement, là. Alors, je vais pas commenter sur son plan. Moi, je vous dis que nous, au gouvernement, nous sommes en action. On a un électrolyseur, on va en faire d'autres. Bon, on va tout nationaliser. Moi, je suis prêt à investir dans l'hydrogène vert. Mais il faut faire attention. L'hydrogène vert, aujourd'hui, coûte très cher par rapport à l'hydrogène.
Oui, puis il y a une méchante perte énergétique aussi, hein?
Exact. Et là, je pense qu'avec Mme Brochu, on est dans des réflexions très, très intenses pour voir justement comment est-ce qu'on va allouer notre électricité. Ça, c'est le plus important ici. L'électricité, c'est pas une denrée infinie, là. Il y a une limite à ça. Donc, on est présentement, le ministère de l'Énergie, le ministère de l'Économie et Hydro-Québec, on travaille ensemble pour voir comment on va allouer l'électricité. L'hydrogène est un des facteurs. Donc, avant de sauter sur le train de l'hydrogène, 100 milliards, 30 ans, il y a du travail à faire. Je pense que ce travail-là, on l'a commencé. Puis il faut comprendre que c'est un chapitre qui est nouveau. Là. Il n'y a personne dans le monde qui sont des experts de l'hydrogène. Alors, allons pas plus vite que l'analyse qu'on doit faire de façon rigoureuse.
Puis on ne peut pas mettre tous nos œufs dans ce panier-là, j'imagine aussi.
D'autre part.
Oui. Hey, merci beaucoup. Je vous laisse aller. Merci de votre temps. Salut.
Bye-bye.
Eh bien, nous aussi, on vous dit bye-bye parce que c'est comme ça que se termine là-haut sur la colline en ce mercredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain jeudi.
Cube Radio.